Bonjour et bienvenue au Petit Salon saison 2, présenté par l'École d'Art de Sutton, qui organise cette année la troisième édition du Petit Salon du Livre de Sutton. Le Petit Salon, c'est un balado en série qui vous emmène à la rencontre des autrices et auteurs des cantons de l'Est. Épisode 1, Stéphane Lemardelet. Stéphane Lemardelet, c'est un dessinateur, illustrateur et storyboarder qui est à l'origine de nombreux projets artistiques et culturels dans la région. Mais aujourd'hui, c'est surtout en tant qu'auteur de romans graphiques qu'on va le rencontrer. Si vous habitez dans le coin, vous êtes forcément déjà passé devant son premier livre en solo, Le Nouveau Monde Paysan au Québec. C'est un roman graphique documentaire sur les nouveaux agriculteurs des cantons de l'Est qui est aussi beau qu'instructif. C'est un lundi matin du mois de décembre, un petit peu avant 8h, que j'avais rendez-vous avec Stéphane. L'idée était de l'attraper alors qu'il terminait sa promenade matinale avec son chien. Sans plus tarder, je vous laisse vous plonger dans l'écoute de cette rencontre. Alors me voilà devant chez Stéphane et j'entends le chien qui aboie à la porte, ce qui veut dire que Stéphane a déjà terminé sa promenade. Bon, je vais aller à la porte.
Salut, toi.
Bah oui.
Bon matin, ma belle.
Bien, ami.
Bon
Salut.
Matin.
Bonjour.
Ça va? J'ai manqué la fin de la balade, alors. Salut, toi.
Ah bah ouais, mais on peut repartir, si tu veux.
Non, c'est vrai.
Vas-y, rentre.
Bon matin, ça va?
Eh oui, c'est un ami. Voyons, Pauline.
C'est Pauline?
Ouais, je te présente.
Salut,
Pauline.
Pauline,
je te présente Mika.
T'es belle.
Ça va, ma belle?
C'est un griffon, c'est ça?
Ouais. Griffon, ouais,
griffon,
c'est
hein.
Ça.
Ouais. C'est beau, tout vitré, comme ça.
Ah, écoute, on est...
T'as la vue?
On a une vue, on a vu sur le pinacle.
C'est le pinacle qu'on voit là-bas, ouais.
Ce matin, voilà. C'était écœurant parce que... Il y avait juste un petit rayon de soleil sur le sommet du pinacle enneigé, là, c'était magnifique.
Ouais. Et les couchers de soleil, là, au mois de novembre, ils tombent à peu près juste derrière.
Ils tombent par terre, c'est... tous les jours c'est différent. Ouais. Moi, la mer me manque, mais avec les couchers de soleil derrière le pinacle...
Puis il y a le petit étang qui peut rappeler...
Ben ouais, c'est ça. Là, toi, par contre, c'est presque une frustration de l'avoir là sous les yeux. Et à partir du mois d'octobre, ben, puis pouvoir vraiment aller se baigner, quoi. Mais c'est le fun. Non, c'est du bonheur complet. On est chanceux d'être dans le coin. Hein.
Vraiment, oui.
On est beaucoup. Vraiment chanceux. Moi, je me sens privilégié de dessiner ici. Café?
Écoute, pourquoi pas, ouais.
Avec du lait, du manger.
Juste un peu de sucre et un petit peu de lait, okay. Si t'as, mais...
Tu veux t'installer où, mon cher?
Écoute, n'importe où, où t'es le plus confortable. Toi, ton spot habituellement quand tu travailles ou quand tu...
Ah, bah c'est au sous-sol, on peut aller voir dans la cale. Parce que la maison ressemble à un bateau. Voilà ma cale.
La cale.
Alors, bah si et toi, je sais pas comment tu veux fonctionner, comment ça marche.
Bon, écoute, je m'installe là. Ça fonctionne tout simplement comme on a commencé. Là.
Ah, ok, d'accord.
On discute.
Bon, c'est parti, quoi. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux savoir, mon cher?
Alors, déjà, j'espérais pouvoir t'avoir l'année dernière. Bon, on a fait juste 4 épisodes, finalement, c'était un peu un projet pilote. Donc, je suis très heureux vraiment de commencer cette année avec toi.
Ah, c'est moi le premier,
c'est toi le premier.
Oh, j'ouvre le bal, toi.
Exactement. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, je suis arrivé à Sutton en novembre. Donc, le salon du livre commençait deux ou trois semaines d'après. Hein, et j'ai découvert la région à travers ton livre, en fait, à travers le nouveau monde paysan.
Bah oui. Ouais. Bah, c'est une porte d'entrée, effectivement. Ouais. Après, c'est facile de tomber en amour avec la région. Moi, j'ai fait la même démarche il y a 27 ans maintenant, parce que je viens de passer en juillet. Ça a été la date charnière où j'aurais passé plus de temps au Québec qu'en France. Puis écoute, je suis complètement tombé en amour effectivement avec le coin. Il y a quelque chose de très... qui n'est pas aussi... Comment dire? Par rapport aux Laurentides, ici déjà on a des paysages. Oui. On a une culture. Donc culture, agriculture, c'est étymologiquement c'est la même source. Donc ça se ressent. Par rapport à d'autres régions, tu es dans des régions montagneuses, puis il faut que tu écartes deux arbres pour voir un paysage. Oui. Ici, tu peux te retrouver en forêt, puis l'instant d'après, tu as toute une ouverture sur des champs, sur une vallée. Déjà, au niveau géologie, c'est extraordinaire. Puis au niveau culture, écoute, il s'est passé des choses incroyables ici. La proximité de la frontière notamment, les maisons, on trouve des maisons avec des styles qu'on ne trouve pas ailleurs au Québec. Puis historiquement parlant, je suis en train de travailler avec Laurent Busseau sur un projet d'histoire de la région. Là. phénoménal. Il y a des gens, il y a des histoires incroyables qui se sont passées ici. Alors effectivement, le Nouveau Monde Paysan, bah, est-ce que tu connais les carnets de Brome-et-Siscoy ?
Oui, bah c'est... Attends, que je me mêle pas. Il y a les paysages que toi, tu as...
Ouais, il y a paysages en série.
Ouais, ça, c'est et ces carnets... Ah oui, ok, je les ai vus, mais je les ai pas...
Bon, mais voilà, comme ça, tu l'as maintenant.
Ah bah c'est gentil, merci.
Puis, bah, quand je suis arrivé dans la région, j'ai eu la chance, moi, de faire ce bouquin-là. Et j'ai sillonné tous les rangs de la région.
Okay.
Puis ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux te perdre en forêt, mais à un moment donné, tu vas retomber sur un rang, sur un chemin, sur une ferme, sur un village. Il y a de la vie partout.
Il y a des surprises à chaque
détour. Il y a des surprises extraordinaires. Puis chaque village a son entité vraiment très, très forte. Mmh. Alors en faisant ce petit bouquin-là, en l'illustrant plutôt, j'ai vraiment découvert déjà l'histoire, enfin l'histoire, c'est un bien grand mot, mais les petites histoires qui font l'histoire de la région. Mmh. Alors ça a été déjà une belle découverte, une belle sensation d'échange, d'apprentissage. Puis Nouveau Monde Paysan, ben, c'était la même démarche, dans le sens que Christian qui faisait sa récolte d'ail, au début je dis bon, ben, je vais raconter la récolte, c'est une journée d'ail, on est 150 personnes à récolter 60 000 plants d'ail. Puis bon, voilà, ça va s'arrêter là, quoi. C'est fini. Bon, c'est vrai que l'expérience est extraordinaire humainement parlant. T'as des gens de tous les horizons, de la région, d'ailleurs. Christian a invité sa famille, ses amis. Alors, il y a vraiment une rencontre qui se crée avec sa récolte.
On le sent dans le livre. En tout cas, ça donne envie d'y être.
Je pense, moi, c'est ça qui m'a allumé. Parce que tout le monde est là. On est 150 personnes à ramasser l'ail dans le champ. À la fin de la journée, on est épuisé, crevé, mort. Christian, il rigolait de moi quand je disais hey, « j'ai mal partout ». Il dit « ah, rigolo ». Je dis « ouais, mais moi, je pousse des crayons. Lui, il pousse de la terre. Donc, la condition physique n'est pas la même, ça, c'est certain. Donc, mais on avait tous le smile jusqu'aux oreilles. Puis t'imagines, tu l'as vu dans la BD, la table de 150 personnes avec les deux cochons au fond, au bout, les 25 poulets, les patates.
Ça a l'air convivial.
Ah, écoute, c'est une table qui fait je ne sais pas combien de pieds de long, là. C'est avec la remorque du tracteur qui a servi à ramasser l'ail dans la journée. Il la pousse devant la table, il monte une scène dessus. Puis là, il y a des musiciens de jazz, puis de pointure en plus, qui viennent jouer. Le moment est assez extraordinaire, donc ça allait faire une belle BD de 52 pages, puis c'était fini, format standard. Mais là, en rencontrant les intervenants, les gens qui sont là dans le champ, des maraîchers, des gens liés à l'agroalimentaire, des cultivateurs, ben, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à raconter avec ça, puis je me suis fait un petit peu, je me suis embarqué dans le truc. Puis d'une personne à l'autre, finalement, bah, je comprenais toutes les problématiques qu'ils avaient au niveau de l'agroalimentaire, de l'agriculture en particulier, que ce soit des bâtons dans les roues par les municipalités, que ce soit par le MAPAC, le ministère, que ce soit par la CPTAQ. On voit des fermes qui font 300 acres, qui, le fermier, il arrive à sa retraite, donc il faut qu'il... Ben, ça la relève, mais même ses enfants ne peuvent pas acheter la terre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que de fragmenter la terre pour même donner accès à des petits projets maraîchers, on est obligé de vendre les 300 acres d'un coup. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un gentleman farmer qui ne va jamais planter un radis,
qui rachète tout ça,
qui loue éventuellement les terres aux alentours, donc ça devient du maïs éventuellement avec EGM. Puis on voit finalement des terres qui sont encore agricoles, c'est vrai, mais c'est une exploitation qu'on ne veut peut-être pas. Ouais. Alors tout ça, en plus des considérations météorologiques, où faire pousser des légumes ici au Québec, c'est du sport. Mmh. Alors finalement, d'un 52 pages classique, c'est devenu 250 pages sur l'agroalimentaire. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que moi-même, on va faire l'épicerie dans le village, effectivement, puis les producteurs locaux, ouais, on les voit au marché, et encore, on les connaît pas nécessairement. Puis en faisant ce tour-là, je les ai rencontrés, puis j'ai vu que finalement, sans aller quasiment à l'épicerie, sauf pour certains produits, on avait des producteurs de toutes dans la région, puis très accessibles. Mm-hmm. Alors, c'est ça aussi qui m'a charmé, puis c'est des gens, tu sais, on
parle du fameux retour à la Terre qui s'est fait dans les années 70, mais là c'était des gens vraiment qui n'étaient pas du tout éduqués là-dedans. C'était une aventure qui rejetait le système économique et tout ça. Alors que là, ce sont des jeunes, aussi bien des hommes, des femmes, la plupart du temps, qui sont éduqués, qui ont étudié dans le domaine. Mmh. Et surtout, ils ne veulent pas rejeter le système économique. Le système capitaliste, oui, mais pas le système. Donc, ils veulent s'inscrire dans le système économique, contrairement au retour à la Terre qu'on a eu dans les années 70. Alors, la vision est complètement différente. Et je pense qu'ils ont fait beaucoup changer les choses, notre façon... Alors, là, ça, c'est un des points positifs de la pandémie, je trouve, c'est que ça nous a apporté une prise de conscience de l'importance de notre alimentation. C'est certain qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain l'alimentation, l'agriculture industrielle. Elle est utile, elle permet de fournir un grand monde, mais la planète fournit, produit pour nourrir 12 milliards d'individus. On vient de dépasser le cap des 8. Et sont où les 4 milliards de différences, sachant qu'il y a encore des enfants qui meurent de faim. Il y a un système qui ne marche pas. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Alors qu'ici, bah, tous ces jeunes essayent de répondre à un besoin local ou au moins régional. Ce qui est génial, c'est que, comment dire, avec le nouveau monde paysan, on fait quoi, 50 km ?
Oui.
On ne va pas loin. Alors c'est vraiment une analyse d'un microcosme. Mais je ne sais plus, je crois que c'est Rousseau qui disait, non pas Rousseau, qui c'est qui disait ça, je ne sais plus, que quand on prend un microcosme, il y a de fortes chances qu'il soit universel. Et effectivement, on retrouve ce modèle-là partout à travers le monde. Donc bref, donc c'est un peu ça l'histoire, c'est pas venu, c'était pas une idée première, c'est vraiment, je me suis laissé aller dans le projet, dans les rencontres, puis ça a donné ça au final. Quoi.
C'est vraiment au fil des rencontres que le livre s'est créé finalement.
Complètement.
Peut-être tu l'as pas storyboardé celui-ci, tu l'as pas scénarisé ou...
Oui, je l'ai scénarisé parce que je voulais une certaine transparence, donc il y a eu, comment j'ai procédé, ça s'est fait au fur et à mesure, j'ai pas enregistré, j'ai pris des notes. Ce qui me permettait déjà d'entrer à l'entrevue, d'être plus resserré sur ce qu'il en ressortait, ce qui ressortait des rencontres, des entrevues. Ensuite de ça, j'ai commencé à faire le storyboard d'après photo, mais c'était quasiment, comme je travaillais d'après photo, c'était quasiment tout de suite le dessin final. Et je leur ai redonné, ça encore une deuxième étape aux personnes qui intervenaient dedans. Alors c'était vraiment un échange créatif, puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que c'est quand même un milieu très particulier, puis il y a certaines personnes qui me demandaient « Ah oui, je t'ai dit ça, mais je suis quand même un peu gêné, alors est-ce qu'on peut l'enlever ou est-ce qu'on peut... » Alors il y a quelques pages, quelques passages qu'on a remodifiés pour que tout le monde soit à l'aise et que personne ne soit attaqué. Mais c'est quand même assez particulier que quand on parle d'agriculture, il y ait une certaine...
retenue.
Ouais, une certaine retenue. Je sais pas, c'est quand même spécial. C'est la puissance des lobbyismes, du lobbyisme est quand même assez forte, ou même du gouvernement et tout.
C'est que j'ai l'impression qu'ils dépendent beaucoup de décisions d'institutions qui ont le contrôle sur ce qu'on a le droit ou pas de faire.
Complètement.
Qui se protègent.
À tous les niveaux, ils dépendent de décisions gouvernementales. Et municipales, et etc. Mais c'est ça, ils sont obligés tout le temps de se battre, de prouver des affaires. Une des intervenantes m'expliquait au niveau de la banque que la banque, elle avait besoin de 40 000 piastres pour partir son entreprise. C'est pas 400 000, c'est 40 000, c'est rien 40 000, tu sais. Et la banque disait non, c'est pas rentable, aussi bien pour vous que pour nous. Parce que la banque, elle, calculait la rentabilité d'une production maraîchère à l'hectare ou à l'acre, je ne sais plus. Alors que elle, la fille, calculait sa rentabilité à la gousse d'ail. Alors le calcul est différent, effectivement. C'est un rapport d'échelle qui est complètement disproportionné. Alors effectivement, à plein de niveaux, ils rencontrent plein de difficultés, quoi. Et c'est en train de changer, mais c'est pas facile.
C'est lent.
Ouais, c'est long.
La transition est longue.
Puis on le voit, encore une fois, avec la COP 20 qui a eu lieu en Égypte dernièrement, il y avait combien ? Il y avait 600 représentants internationaux de gouvernement, il y avait plus d'un millier de représentants de lobby.
Ah oui, je n'avais pas entendu ce chiffre.
Ouais, je peux me tromper dans les chiffres. Hein,
quelque chose comme ça.
C'était vraiment complètement disproportionné. Ouais. Alors, c'est d'une aberration complètement fou. Comment voulez-vous, comment veut-on qu'on arrive à développer une agriculture saine à partir du moment où notre terre est mise sur le marché de la bourse? Ça ne marche pas.
De ce qui me regarde pas. Comment je te dirais bien ça? Et puis il y a un temps où, comme tu sais, ben, il faut que les choses se disent. Fait que, écoute bien là. Même si t'as ça, c'est ça qui est ça. As-tu?
Maintenant comme un militant vraiment sur la question agricole, est-ce que c'était déjà le cas avant ou c'est quelque chose que tu as découvert en faisant ce livre-là?
Ouais, j'ai découvert ça. J'étais militant, j'étais conscient de ça, mais je ne savais pas jusqu'à quel point c'était aberrant. La démarche documentaire, c'est ça, c'est d'apprendre. C'est de se documenter, c'est de savoir comment ça se passe, c'est la curiosité qui nous pousse. Si on sait déjà quelque chose, on n'a plus d'intérêt à apprendre et puis à découvrir. Alors effectivement, en faisant ce livre-là, j'ai vraiment appris. Alors oui, je suis devenu militant dans un certain sens, mais c'est plus, comment dire, dans la volonté de connaître, de savoir, de partager un savoir, que de défendre une cause bec et ongles. C'est plus, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu ambitieux dans une démarche d'éducation. En commençant par moi.
Par toi-même, bien sûr.
Parce que c'est Wim Wenders qui disait, à propos des ignorants de David Davodeau, qui a été le déclencheur de tout ça, qui disait qu'il ne connaissait pas cette bande dessinée, mais qu'il aimait bien le titre. Parce que quand on est ignorant, ça veut dire qu'on peut apprendre.
Ouais.
Et ça, je trouve ça merveilleux.
C'est quoi cette BD? Les ignorants?
Les ignorants de Étienne Davodeau.
Alors, attends. Ah ben, voilà.
C'est partie de mes références. Moi, j'ai toujours été un passionné de bande dessinée, mais quand j'ai découvert ça, je dis waouh, c'est ça que je veux faire quand je serai grand. Davodeau, lui, ce qu'il fait, c'est tout simple. En fait, ça a commencé avec un de ses amis qui est vigneron et qui, un jour, le voyait dessiner, lui pose une question niaiseuse ou du style c'est toi qui choisis tes couleurs ou c'est l'éditeur qui te les impose? Puis ils se sont regardés, ils disent « Oh, toi, tu connais rien en BD. »« Bon, non, je connais rien. »« Ouais, bah, tu m'intéresses. » Donc, ils ont passé un an ensemble.
Okay.
L'un apprenant à tailler une vigne, à goûter du vin. L'autre apprenant à lire des BD, quels sont les auteurs, comment on fait une BD. Et ils ont passé un an, donc, dans la vigne de l'un et dans l'atelier de l'autre.
Ils se sont mutuellement formés à leur discipline.
En fait. Exactement. Donc, ils étaient ignorants du métier de l'un de l'autre, et ils ont partagé cette connaissance-là.
D'accord.
Juste ça... dans le plaisir de partager, c'est... Tu connais pas ça?
Non.
Bon, bah, je te le donne pas.
Non, je comprends bien, mais c'est parfait, je cherche des BD en ce moment.
Ah, ça, c'est vraiment... Puis moi, ça a été le déclencheur, dans le sens que j'étais un passionné de BD toujours, mais j'ai un petit peu décroché des histoires de super-héros, du format classique en 54 pages, je lis toujours Tintin, encore plus Astérix, je reste fervent admirateur de Manu Larsonnet et tous ces gens-là, Gaston Lagaffe et tout. Mais quand le roman graphique, grâce notamment à l'association dans les années 1990, a amené autre chose. Et c'est une démarche, bon, avec l'association, c'est une démarche autobiographique.
L'association, c'est un roman graphique?
Non, l'association, c'est une maison d'édition. Okay. Alors, c'est Lewis Trondheim, si je ne me trompe pas, c'est David B., c'est Emmanuel Guibert, c'est toute une série de jeunes auteurs à l'époque qui faisaient des romans autobiographiques, de la bande dessinée autobiographique qui se racontait. Alors, par exemple, David B., lui, explique c'est quoi la maladie de son frère qui était atteint d'épilepsie. Et il raconte au jour le jour comment il fait pour comment il a grandi avec un de ses frères qui est devenu sous tutelle parce qu'il fait des crises d'épilepsie, donc c'est quelqu'un de souffrant. Et il raconte la vie qu'il menait avec lui, la vie de famille, comment on cherche à l'aider, etc. quoi. Donc c'est quand même quelque chose de très très fort. Donc bref, tous ces auteurs-là ne se faisaient pas éditer. Alors ils se sont dit, on va monter notre propre maison d'édition. Comme c'était une association loi 1901 en France, l'équivalent d'une OBNL ici, ça s'appelait l'association. Et c'est eux qui ont fait découvrir Satrapi, Marjane Satrapi, qui ont fait découvrir... Guy Delisle a été chez eux pendant un temps, donc bien sûr David B. Maintenant, c'est ce qui a un peu lancé le roman, le style roman graphique en France. Maintenant, toutes les maisons d'édition ont leur collection roman graphique, documentaire, etc. Alors, ils avaient une vision. Et quand moi, j'ai découvert ça, je dis « Waouh, c'est extraordinaire, ça !» Parce qu'on garde le côté ludique de la BD, mais c'est pas pour autant que c'est pas sérieux.
On y ajoute vraiment une profondeur.
Complètement. La bande dessinée nous permet d'avoir ce côté qui est pas rébarbatif d'un gros livre ou d'un documentaire à la télé avec une voix hop et blablabla dans lequel on va s'endormir. Il y a le pouvoir magique du livre qui est d'avoir tout un monde en quelques pages qu'on peut ouvrir et fermer comme on veut, qu'on peut trimballer sans aucun autre outil technologique, mais ça garde le côté ludique et ça permet aux jeunes de s'intéresser aussi à plein de sujets qu'ils n'auraient jamais approchés autrement. Alors moi, je suis retombé là-dedans, je suis plongé là-dedans en refaisant ma collection de bandes dessinées, mais plus spécifiquement de romans graphiques, documentaires ou pas. Et j'ai vu une forme de narration que moi, j'englobe dans la narration graphique où on peut... Moi, je pouvais m'exprimer. Où je suis pas un bon... Je suis pas un bon scénariste. Alors, d'avoir une démarche documentaire, j'avais quelque chose à raconter du début jusqu'à la fin. Je voulais, en fait, documenter depuis longtemps le cinéma. Mais je savais pas du tout quelle forme ça allait prendre. Et je voulais plus être là, sur un tournage, pour expliquer mon métier de storyboarder, parce que quand je dis que je fais du storyboard pour le cinéma, les gens me regardent comme ça, c'est quoi la patente, de quoi que ça mange en hiver, ça. Alors je voulais expliquer ça, et c'est en travaillant avec Wim Wenders sur le storyboard, enfin non, pas sur le storyboard, sur Everything Will Be Fine, le film de Wenders, en étant en repérage avec Wenders sur le lieu de tournage, et Emmanuel Fréchette surtout, que pendant un repas dans un petit diner perdu du côté de Oka, c'est Manuel Fréchette qui dit « J'ai lu une BD, Les Ignorants », qui raconte l'histoire de, comme je viens de dire. Puis je dis « Oh ouais, c'est Étienne Davodo, c'est génial, ça s'appelle Les Ignorants ». Puis là, il y a Wenders, c'est là qui dit « Ah, je connais pas cette BD, mais j'aime le titre parce que quand on est ignorant, ça veut dire qu'on peut encore apprendre ». Et vraiment, ça, c'est sa philosophie à lui. La veille, on était ensemble, encore une fois, au restaurant. On lui demandait c'est quoi ses influences. Puis il me parle de Ozu. Je dis Ozu ? Ouais. Puis sa réaction d'emblée, c'est tu connais pas Ozu ? Chanceux, tu vas pouvoir le découvrir. Alors là, en discutant autour des ignorants, puis la réaction de Wenders, ça, j'en ai encore des frissons, c'est comme il faut que je raconte ce tournage. Cette préparation de tournage et la forme, elle est calquée sur Les Ignorants. On a passé 3 semaines ensemble, je raconte tout simplement ces 3 semaines-là. Et j'ai repris la forme ensuite avec Paysan, le Nouveau Monde Paysan, où on passe une journée dans un champ, on raconte tout simplement cette journée-là. C'est pas plus compliqué que ça. Future we belong.
not saying that I can live without you, but I'm a long way from figuring out how to. Girl, it's in the future we belong. No, it's in the future we belong.
Qu'est-ce qui t'a fait quitter la Normandie pour le Québec ?
Qu'est-ce qui m'a fait quitter la Normandie ? J'ai eu un grave accident en 93 et ça m'a fait comme prendre conscience ou au moins me poser la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? J'étais plus dans le commerce en France et c'est un domaine que je dis non, c'est pas, c'était pas mon truc. Et en convalescence, je suis allé voir un ami en Suisse et le hasard... J'avais prévu déjà un congé sabbatique où je voulais partir faire le tour du monde. Et dans ce tour du monde-là, il y avait... le Québec en faisait partie. Je ne comprenais pas le Québec. Je ne savais pas ce que c'était. Et en allant voir cet ami-là, il partait au Québec. Puis il chialait parce que personne ne venait avec lui. Alors, je lui ai demandé, mais est-ce que tu as demandé à tous tes amis ? Ouais, j'ai demandé à mes chums. Ils veulent... Enfin, mes amis, pas mes chums, justement. « Ouais, mais ils veulent pas venir, on a deux qui hésitaient, puis finalement ils viennent. »« Oui, mais t'as demandé à tous tes amis ?»« Ouais, mais t'as demandé à tous tes amis ?» Alors à un moment donné, il s'est dit « Attends, tu viendrais ?»
J'ai pas demandé à Stéphane.
Je dis « Ben regarde, laisse-moi deux semaines. » Puis donc, j'ai débarqué au Québec, alors ne connaissant pas du tout, prenant un billet d'avion aux dernières minutes, j'ai débarqué à Toronto. Et là, le copain était rendu à Ottawa. Il est revenu me chercher, parce qu'il avait oublié que j'arrivais, à Toronto, puis il dit, viens, on s'en va. On reste pas ici. Ok, bon, Toronto a beaucoup changé, mais j'ai atterri là, mais je connais pas cette ville encore. Et
puis si tu souhaitais aller au Québec, t'étais au mauvais endroit, surtout.
Ouais, mais je savais pas, moi. Je comprenais rien au Québec. Ouais. C'est quoi une fédération ? C'est quoi le fédéralisme ? C'est quoi le... Je savais pas. Et donc, finalement, c'est arrivé à Montréal, puis même au premier abord, Montréal ne m'avait pas plu. Puis là, on a commencé à faire une autre tour classique. Québec, le lac Saint-Jean, Tadoussac, la Gaspésie, et c'est en rencontrant Stéphane Ricard, qui est un directeur photo, et on a eu la malheureuse idée de lui dire que on n'avait pas aimé Baie-Saint-Paul. Alors là, ça l'a piqué.
Il nous a fait retourner.
On est retourné, puis là, il nous a fait découvrir le Québec. Alors, c'est tout ça qui m'a fait un peu tomber en amour avec le Québec, puis cette possibilité de faire des choses. Je crois que tout ce que j'ai réalisé, puis le parcours que j'ai vécu, j'aurais jamais pu le faire en France, à moins de passer par Paris, mais avec une toute autre considération, un tout autre parcours.
En France, il faut les études qu'il faut. Quoi. Il faut le diplôme qui va bien.
Il faut toujours montrer patte blanche, il faut toujours prouver que... Alors qu'ici... C'est comme, ah, tu veux faire ça ? Ben oui, ok, viens-t'en. Puis si tu fais l'essai, puis que ça se passe bien, on te rappelle.
We'll be right back.
pourrais dire que je vis de mon dessin, mais je ne vis pas de mon art. Et ça, c'est une chance. J'ai réussi, en tout cas, à développer mon dessin dans plein de domaines différents. Je fais du storyboard pour des pubs. Alors, c'est sûr que des pubs de yaourt,
c'est
pas trippant, mais si le réalisateur se prend pas pour Spielberg, ben on va le dessiner comme il faut, le pot de yaourt. Des étiquettes de vin, des cartes d'affaires. J'ai fait des cartes d'affaires, quoi, que c'est quelque chose qui se perd maintenant. Donc, j'ai eu la chance de diversifier mon dessin vers des choses aussi bien très artistiques que des commandes très commerciales, avec un entre-deux, comme des affiches pour le musée de Sutton, par exemple, ou pour le festival de jazz, ou des pièces de théâtre, ou des couvertures d'albums, des choses. Alors, et ça me permet à la fois de remplir le frigo, puis d'avoir aussi ma créativité très personnelle. Oui. Là, je travaille donc paysan, vendors, Queen Lil qui va s'en venir en 2024, on vient de terminer le scénario.
Qu'est-ce que c'est celui-ci?
C'est
le prochain, donc
c'est pas le prochain, parce qu'entre les deux, par exemple, je travaille sur la biographie de Simone Veil, qui a été ministre d'État en France en 1975, qui a légalisé l'avortement, donc très féministe, mais qui a aussi fait les camps de la Shoah, les camps de concentration quand elle était jeune. Donc ça, c'est avec un scénariste, Pascal Bresson, et c'est aux décisions de la boîte à bulles.
D'accord. Mais ça, c'est le prochain qui sort.
Ça, c'est le prochain qui devrait normalement sortir en mai prochain, mais là, je rame. Là.
Ah ouais.
Je cherche une couleur, j'ai beaucoup de mal à trouver ma coloration pour toutes les séquences de camps de concentration. C'est tellement déprimant que ça fait plusieurs jours là, que je cherche puis je ne trouve pas, parce que ça, c'est dur.
Ouais.
Alors c'est artistique, mais c'est une commande. Mais Queen Lil, donc, on parlait de la région, qui a une culture, qui a une histoire extraordinaire. Tout ce qui s'est passé dans la région, c'est phénoménal. Dans le petit livre que je t'ai passé, on en parle un petit peu. Et Queen Lil, alors je travaille avec Laurent Busseau, qui est historien, qui a une culture historique extraordinaire et qui est comme moi un passionné de la région, qui est en amour de la région et qui va gratter, qui va fouiller les affaires, qui va chercher des choses. Et Queen Lil, c'était une tenancière de bordel qui, dans les années 1900, avait un commerce bordel, donc de prostitution, un hôtel à Boston. Et quand la loi Mann est passée en 1908, je crois, interdisant la prostitution, elle a fui Boston. Mais elle vient de Richford.
Oui, donc c'est celui qui était à la frontière sur Aberfan.
Voilà. Et elle a racheté une ruine, un hôtel qui avait brûlé.
J'ai entendu cette histoire.
Et au tribunal, on lui a dit, vous n'avez pas le droit de construire là. Elle a dit, mais je ne construis pas, moi, monsieur. Je rénove. Voilà. Et donc, elle a eu le droit de reconstruire cet hôtel-là, qui, pendant la prohibition... Alors, il faut savoir que la prohibition, elle a commencé au Canada.
Ah oui?
La prohibition existait depuis 1864 au Canada.
OK.
Par référendum, elle n'a pas pu s'implanter à 100%. C'était le premier référendum au Québec sur la consommation d'alcool interdit, sec ou humide. Et les Québécois ont dit non.
Humide.
Humide, nous. Et cette loi-là, elle est passée en 1864 au Canada, Ontario, Québec. Mais au Québec, c'était à la décision, parce que les Québécois ont prononcé « on veut de l'alcool ». Et c'était au choix des comtés ou des villages.
D'accord.
Et donc, Queen Lil, elle a racheté son hôtel, qui, pendant cette période, avait une porte aux États-Unis et une porte au Canada. Écoute, le trafic qui s'est fait ici, c'était incroyable. Le chef des douanes, parce que quand ça a commencé à être plus contrôlé par l'État, le chef des douanes qui a été nommé ici, c'est un ancien trafiquant de l'alcool près de la colle Hemingford. Juste ça en fait raconter. Puis pendant les prohibitions, ça passait comme on veut. Ça venait de France jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, en toute légalité. Saint-Pierre-et-Miquelon ramenait ça aux États-Unis sur la côte avec des bateaux dont les moteurs, c'était des moteurs d'avion. Donc une puissance incroyable. Ça remontait le Saint-Laurent, ça passait partout, jusqu'en 1921, où on a créé la commission des liqueurs pour essayer de contrôler le trafic et récupérer un petit peu de taxes, quoi. Et Laurent a découvert, a trouvé plein d'histoires incroyables. Ce qu'il faut savoir, et ça, ça a été notre surprise aussi, c'est que la loi de prohibition canadienne et américaine, elle a été beaucoup influencée par les mouvements de tempérance, qui étaient donc anti-alcool, principalement protestants. Mais c'est les premiers mouvements
qui était principalement menée par des femmes. C'est les premières fois que les femmes ont eu le droit de manifester, de s'exprimer, de manifester contre, pour les mouvements anti-alcool.
D'accord.
Ça a influencé les lois aux États-Unis notamment. Il faut savoir que la loi de prohibition aux États-Unis, c'est la modification du 19e amendement. La modification du 20e amendement, c'est le droit de vote des femmes. Alors on est, et ça on le savait pas, on est dans les balbutiements des mouvements féministes en Amérique du Nord.
Okay.
C'est quelque chose quand même.
C'est très intéressant ça.
Alors le scénario qu'on a écrit avec Laurent, bah, bien sûr il a pris une autre tournure, parce que on parle de prostitution, on parle surtout de femmes, de mouvements féministes, puis ensuite c'est presque devenu secondaire, de la prohibition puis du trafic quoi. Quand on a vu qu'on parlait plus de femmes, Laurent est un vieux gars comme moi de 50 ans, blanc d'origine française. Vous êtes qui, vous, pour parler des femmes, pour parler des autochtones, pour parler de tout ça? Alors, on a approché Anaïs, qui habite dans la vallée où a lieu Queen Lille, pour qu'elle nous relise et qu'elle ait une critique avec une vision féministe du projet. Ici, il y a tellement de choses à raconter, c'est extraordinaire. Quoi.
Donc, à surveiller, Queen Lille.
Donc, ça va être Queen Lille en 2024, si tout va bien.
Si tout va bien. Voir.
Mais d'abord, Simone Veil, et puis Wenders qui vient de sortir.
À l'arrière des berlines, en ruines, les monarques et leurs figurines. Faire de demi-dieu, livré à eux, ils vont des petits, ils vont des ennuyeux, à l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéran, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine, osez, osez, Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit.
Et voilà donc qui conclut le premier épisode de la deuxième saison du Petit Salon. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à écouter Stéphane Lemardelet que moi j'en ai eu à le rencontrer. Merci Stéphane de t'être livré aussi généreusement que sympathiquement. Et si vous aussi vous aimeriez rencontrer Stéphane et tout un tas d'autres autrices et auteurs, ne manquez pas la troisième édition du Petit Salon du Livre, les 3, 10 et 17 décembre 2022 à l'École d'Art de Sutton. Pour la musique, on a écouté Martin Léon, Warhouse, Daniel Bélanger et Alain Bachung, quelques-uns des artistes mentionnés par Stéphane quand je lui ai demandé ses références musicales. Je m'appelle Michael Temer, merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode du Petit Salon.
Osez, osez. Joséphine, osez, osez, Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.